émission de littérature avec Christophe Anna au téléphone. Alors Christophe Anna qui vient de faire paraître Nos Visages Flash Ultime aux éditions Aldante. Alors Nos Visages Flash Ultime, c'est un ouvrage très singulier. Quand on ouvre le livre, par page, nous avons huit portraits, huit visages difficilement reconnaissables, plus ou moins masqués. Ils ont une allure un peu curieuse et sous chaque visage, il y a un petit texte qui explique soit ce qu'ils font, soit ce qu'ils disent, soit ce qui se passe autour d'eux. Et puis préciser aussi tout de suite que ces visages, ce sont des otages en fait. Alors bonjour Christophe Fiat, merci beaucoup d'être avec nous à cette émission.
C'est Christophe Anna.
Christophe Anna.
Voilà.
Complètement n'importe quoi alors.
Alors, oui, je...
Alors ma première question, c'est quoi le dispositif de ce livre bien curieux qui s'appelle Nos Visages Flash Ultime ?
Alors, Nos Visages Flash Ultime, en fait, c'est un livre qui est composé de visages fabriqués en utilisant différents scripts et qui permet de capturer des visages au moment où ils sont censés exprimer quelque chose. Alors, ces visages, en fait, ce sont des visages qui sont indirectement saisis. Ils sont saisis dans des vidéos qui servent soit à terroriser en même temps à marchander. On se sert du visage comme monnaie en quelque sorte. Ce sont des otages qui sont présentés, qui sont filmés et dont les vidéos sont diffusées sur des sites ou envoyées à des journaux ou à des responsables guerriers. Et ces otages demandent ce qu'on leur fait demander, c'est-à-dire par exemple le retrait de l'armée, un meilleur traitement pour certains prisonniers, etc., etc. Et ils sont donc capturés, il y a une capture d'écran qui est faite, puis ils sont retraités de manière à pouvoir s'insérer dans un certain format. Et la légende indique ce qu'ils disent au moment de la capture d'écran, ou ce qui se passe autour d'eux au moment de la capture d'écran. Voilà.
Alors, il y a même des moments très forts ou très durs, où il y en a qui meurent.
Oui, parce que effectivement, parmi les techniques utilisées pour faire la guerre, il y a aussi celle qui consiste à terroriser en filmant des exécutions, qui peuvent être représentées de façon très traumatisante. Alors, donc les visages sont, c'est pour ça qu'ils sont ultimes. De toute façon, ils expriment des choses qui normalement relèvent du difficile à dire échappant aux catégories, aux termes habituels. Effectivement, ces exécutions sont des exécutions qu'on connaît. Certaines ont défrayé un peu la chronique quand il s'agissait d'otages occidentaux. En général, les décapitations ou des fusillades. Et d'une certaine manière, c'est affreux à dire, mais c'est une sorte de monnaie courante dans ces vidéos. C'est d'une certaine manière une règle du jeu dans cet art particulier qui est la vidéo guerrière qui circule sur des sites du Moyen-Orient.
Et alors tu as mené une enquête concrètement sur Internet pour avoir toutes ces pour avoir ces vidéos?
Oui, enfin j'étais inscrit sur tous les sites que je pouvais connaître qui me permettaient d'avoir accès à des informations de cet ordre-là. Et puis j'étais en relation avec un certain nombre de d'étudiants, de théoriciens de la guerre, ou d'obsédés par la guerre et par ses représentations, qui les collectionnent et qui vous en parlent assez facilement d'ailleurs quand vous entrez en contact avec eux.
Et j'imagine aussi qu'il y avait dans ton sorte d'équipe qui était autour de toi, il y avait aussi des traducteurs, puisque les otages ne parlent pas forcément français ni anglais.
Oui, en fait, presque aucun des discours d'otages n'est traduit. Enfin, proportionnellement, c'est très faible, puisque ce qu'on connaît, nous, en général, c'est par exemple les otages italiens, français, quelques américains, les otages anglais. Mais en fait, c'est une toute petite minorité, puisqu'en fait, le marché de l'otage, ou l'économie de l'otage, est quelque chose qui s'est développé gigantesques, en Irak en particulier, et ces otages sont, n'intéressent personne d'une certaine façon, à part quelques par mois peut-être, et puis des gens qui s'intéressent à la guerre en Irak, et aux conditions de cette guerre, aux conditions politiques que cette guerre a provoquées. Ces otages-là parlent d'une certaine manière presque dans une sorte de désert. Et donc évidemment, leurs propos ne sont jamais traduits. Il y a donc des otages irakiens, beaucoup aussi d'otages venant de pays comme la Turquie qui acheminent des provisions dans les camps américains.
Des conducteurs de camions, par exemple.
Des conducteurs de camions en particulier. Ou aussi, curieusement, des traducteurs. Des traducteurs, des interprètes qui permettent aux Américains de communiquer.
Et alors ces portraits donc sont des captations de vidéos, mais l'image obtenue, elle est retraitée.
L'image, elle est traitée de manière à pouvoir faire un portrait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, les images sont de très mauvaise qualité, les caméras sont pas très bonnes, et puis surtout, il se passe une chose qui m'a, moi, fasciné au départ, c'est que on pense toujours que l'image Internet est une image qui ne s'use pas, à la différence de l'image photo argentique. Que c'est une image qu'on va pouvoir transporter comme ça, c'est une somme de données sans poids. Bon, c'est l'idée qu'on se fait de ce genre d'image. Mais en vérité, ces images circulent de site en site. Et tout site est un réservoir non extensible. Ce qui fait que lorsque vous avez des données à mettre, vous êtes forcément obligé de les mettre dans votre bibliothèque. C'est comme quand vous intégrez un nouveau livre. Alors soit vous avez de la place et vous mettez votre objet, soit vous n'avez pas de place et vous devez un peu compresser votre objet. Et il se trouve que les livres sont incompressibles, mais les vidéos, on peut les alléger, etc. Ce qui fait que passant de site en site et circulant sur le web, ces vidéos, la plupart du temps, sont à chaque fois légèrement appauvries, allégées, donc moins en bonne qualité. Et elles arrivent souvent à nos yeux après avoir été prises une fois, puis supprimées, puis reprise, puis resupprimée, etc., parce que les sites en général font surgir la vidéo puis disparaissent, elles arrivent dans un état qui est assez mauvais. Et pour qu'un visage soit rendu visible, reconnaissable en tant que visage, il faut faire un travail dessus, qui consiste par exemple simplement à créer une différence entre les traits et le fond, par exemple. Et donc moi, j'ai travaillé... sur le simple plan pictural, sur ce problème-là, en fabriquant mes scripts.
Il ressemble presque à des portraits robots.
Oui, il ressemble à des portraits robots, parce qu'une des techniques que j'ai utilisées pour pouvoir faire une distinction entre un fond et un sujet a consisté à récupérer un certain nombre de contours et de chevelures qui sont hyper stéréotypés et qui me permettent simplement de désigner un sujet par rapport à un fond. Qui, j'imagine à la lecture, ces éléments-là doivent disparaître, en quelque sorte, doivent être neutralisés par la répétition.
Alors, là, on a présenté un peu factuellement le livre, ce qu'on trouve dedans, comment ça a été fabriqué. J'aimerais, Christophe Hanna, qu'on parle un peu de théorie. Ce livre, en tout cas ce qui est dedans, est-ce que ce sont des documents poétiques? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'est un document poétique?
Alors, vous faites allusion au livre de Franck Lebovici, cette catégorie.
Notamment parce que j'imagine que ce livre, Nos visages flash ultimes, fait partie de documents poétiques, enfin, qu'ils peuvent entrer dans cette sorte de catégorie de documents poétiques.
Mmh. Oui, oui, je pense que une bonne part de mon travail peut être observé sous cet angle-là. Ça, c'est tout à fait possible.
Hein. Alors ma question, ça serait, c'est quoi un document poétique?
Un document poétique, c'est un objet qui donne une forme ou qui informe nouvellement un objet médiatique. Un objet médiatique lié à un problème public, un problème public largement représenté, et donc qui correspond à une étiquette, par exemple otage. On pourrait en trouver plein d'autres. Je sais pas, moi, on pourrait trouver le mot terrorisme, on pourrait trouver le mot capitalisme, on pourrait trouver le mot guerre, qui sont des objets liés à des problèmes publics, qui ont des représentations qui peuvent nous satisfaire ou pas nous satisfaire. Par exemple, en général, pour capitalisme, on n'est jamais satisfait des représentations qu'on en a, de même pour le mot argent. On peut considérer, enfin moi je considère qu'une des fonctions possibles, envisageables en tout cas pour ce que nous on a, ce que moi j'ai envie d'appeler la poésie, ce serait le travail qui consiste à réinformer, resubstantialiser le matériau même de cet objet, soit en lui donnant effectivement des formes nouvelles qu'on invente par recoupement, par hybridation, par exemple. Il y a tout un tas de techniques possibles pour sa redistribution des données, reclassification, etc. On pourrait dire, par exemple, que, je sais pas, moi, Franck Lebovici donne de bons exemples de ça, mais par exemple, Marc Lombardi donne une vision cartographique de ce que seraient des échanges financiers, donc une sorte de vision cartographique de ce que peut être le capitalisme, concrètement, dans l'expérience du flux financier. On peut dire aussi, par exemple, qu'un livre de Tarkos comme L'Argent est une sorte de document poétique sur ce que c'est que l'argent. Voilà. Ce qui caractérise le document poétique, c'est que son discours n'est pas assujetti à des disciplines. Il ne s'agit pas d'un arrangement du vocabulaire disciplinaire, il s'agit de l'invention d'un vocabulaire lié à au terme partagé, au terme connu d'un problème public.
Et donc, Nos visages flash ultimes fait partie de cette théorie des documents poétiques. Une réalisation de cette théorie.
Disons, Nos visages flash ultimes peut être considéré comme ça, je dirais que la catégorie documents poétiques, c'est une catégorie générique. Ça peut être envisagé comme un mode de lecture. On peut considérer énormément de choses comme des documents poétiques. Une part de l'œuvre d'Henri Michaux peut être considérée comme un document poétique, mais aussi comme on peut aussi la considérer simultanément ou parallèlement comme un mode d'expression lyrique. Je pense par exemple à Délices comme connaissance par les gouffres, mais ça peut être aussi considéré comme un mode de traitement de la réalité qu'est par exemple un effet psychotropique. Les visages flash ultimes peuvent être considérés comme quelque chose, comme un document poétique concernant le terme ou l'étiquette otage, ce que c'est qu'un otage, mais pas que. Comme toute catégorie réduit le fonctionnement d'une œuvre, donc c'est une manière, un angle sous laquelle regarder telle ou telle œuvre.
Alors, j'ai envie de déplacer un peu la question par rapport aux documents poétiques. Ce livre est un livre, Nos visages flash ultimes, est un livre qui fait partie du champ poétique.
Ouais.
Pourquoi ne ferait-il pas partie du champ artistique, du champ de l'art contemporain, où il y a aussi des artistes, des plasticiens qui fabriquent des livres et qui peuvent avoir des réalisations proches, voire quasiment similaires au niveau du type de produit plastique fini. Pourquoi est-ce que c'est important que ça soit dans le champ poétique de la poésie que ça se situe, que ça se place?
Je sais pas trop ce que c'est que, en fait, ces différences entre poésie et art contemporain. Alors, je peux apporter un certain nombre de réponses qui sont vraiment à brûle pour point et purement personnelles. La première des choses que je répondrais, c'est que, à la différence de l'art contemporain tel que je le vois, j'aurais tendance à dire que nos documents poétiques, nos visages flash ultimes, en tant que documents poétiques, donc en tant que œuvre poétique, pour moi, est une œuvre poétique parce qu'elle réclame, elle s'inscrit très peu dans une économie. Elle appartient assez peu à un marché, ou le moins possible. Je dirais par là que, d'une certaine manière, elle n'appartient pas à un monde de l'art pensé comme un marché, une économie nécessitant des moyens et un ensemble de subventions énormes. Nos visages ultimes, c'est vraiment un travail de logique, en quelque sorte, que je fais tout seul chez moi, tranquillou, comme non professionnel. C'est un travail de non professionnel. Ça ne s'inscrit pas dans une économie, ni dans un métier. Dans ce sens-là, ça se distinguerait peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce qu'honnêtement, je ne suis pas très inquiété par ces questions de frontières. Mais je dirais que quand je vois les amis artistes que je connais, ce sont souvent des gens qui se pensent comme à l'intérieur d'une économie et effectuent un métier. Et qui sont soumis à des ordres qui ne sont pas, j'aurais envie de dire, purement logiques. Moi, je ne suis pas soumis à ces ordres-là, j'ai une profession. Je considère que l'écriture poétique gagne à être pauvre, à être au minimum, en quelque sorte, du point de vue des moyens. Et que son objet est la logique, en quelque sorte. Son objet est la logique, la représentation des logiques. Et ce qui m'intéressait pour nos vies à sèche ultime, c'était les logiques de guerre, les nouvelles logiques de guerre. Voilà. C'est ma première réponse. Et peut-être qu'elle suffit, non ?
Ça dépend si tu veux approfondir ou pas. Très bien.
Profond,
parfait. Oui, c'était très bien. C'était très très bien. C'était parfait. Alors, maintenant, j'ai parlé d'une autre partie de ton travail, celui de théoricien du champ poétique. Mmh. Tu diriges la collection de questions théoriques dans cette nouvelle édition Aldante. Ouais. Où sont parus pour l'instant deux livres, Dispositif Dislocation d'Olivier Quintin, et ouais. Donc le bien nommé Des documents poétiques de Franck Lebovici.
Ouais.
Alors déjà, aux éditions Aldante, tu as toujours été théoricien dedans, fait des choses théoriques dans cette maison d'édition. Peux-tu nous parler un peu plus de cette collection théorique ?
Ouais. Alors cette collection théorique, elle fonctionne un peu comme la rédaction, c'est-à-dire ce sont des idées qui sont lancées plus ou moins par moi, plus ou moins par des amis, et qui sont réalisées de façon très informelle, au coup par coup, en réunissant un certain nombre de membres, en fait, hein, qui sont capables de proposer des reformulations des problèmes, des idées, de construire des outils, etc. Et notre question à nous, enfin, on s'intéresse tout le temps à la dimension redescriptive de la poésie. Autrement dit, la poésie qu'on pratique, qui s'approche vraiment d'une certaine manière de concevoir la logique, une manière un peu libre, anarchique de représenter la logique, de se représenter le travail logique, c'est toujours une dimension théorique d'une certaine manière. C'est toujours une manière de représenter des discours dont on fait l'expérience et qui nous satisfont ou qui ne nous satisfont pas. Donc déjà, il y a cette première dimension. La seconde dimension, enfin le second élément, c'est qu'on est, voilà, on produit une littérature qui n'est pas une littérature qui facilement inscriptible dans les catégories qui existent et qui dominent dans les études de théorie littéraire qui étaient celles qu'on faisait. On vient, pour la plupart d'entre nous, on a fait des études de philosophie, de littérature, de théorie littéraire, etc. On se rendait compte que on ne se comprenait pas nous-mêmes, en quelque sorte. On avait besoin d'inventer des catégories littéraires ou des catégories de représentation par le texte qui n'existaient pas, en fait. Il y a des fonctionnements littéraires qui n'existaient pas, qui sont très peu représentés, dont on faisait l'expérience, mais qu'on avait du mal à redécrire. Par exemple, je donne juste cet exemple et je crois que ça va être assez visible, du coup, le premier problème. Dans les années 80-90, les années où on faisait nos études, on se rendait compte que la littérature se partageait essentiellement, ou la conception de l'écriture dans les poétiques dominantes était, disons, extrêmement dichotomique et distinguait essentiellement ce qu'on appelait par exemple une représentation factuelle et une représentation fictionnelle. Et puis, indépendamment de cette opposition-là, on avait une opposition qui était un travail portant sur la diction, c'est-à-dire sur le style, l'effort au style, le travail sur la syntaxe, et un travail portant sur la représentation ou sur la fiction. Donc on avait un jeu de catégories comme ça, où on avait fiction, diction, fiction, puis littérature factuelle ou texte factuel. Or nous, ce qu'on fait n'a rien à voir avec ça. D'abord, on ne fait pas de fiction. C'est-à-dire que les textes qu'on fabrique sont des textes qui ont des prétentions à parler des expériences qu'on vit. En autrement dit, ils ne réclament pas du tout une suspension de l'incrédulité, comme on le fait couramment lorsqu'on consomme de la fiction. Ils ne sont pas non plus une mise en avant de spécificités formelles liées à une subjectivité et à un effort hostile ou ce genre de choses. C'est pas du tout des questions qui m'intéressent moi et qui intéressent la plupart des gens qui font de la littérature et qui me sont proches. On ne fait pas non plus de textes factuels dans la mesure où les textes que l'on produit n'utilisent pas des formes, par exemple, documentaires, qui répondent à un vocabulaire disciplinaire et qui permettent de se repérer clairement dans le fonctionnement référentiel du texte. Donc on se trouve dans quelque chose qu'on pourrait appeler de la non-fiction, mais qui ne bénéficie pas de définition positive, affirmative, en compréhension en tout cas, et dont on devait théoriser à la fois les formes, les fonctionnements, la situation par rapport aux autres, logique, etc. C'est pourquoi on a fabriqué donc deux collections. Une première collection qui s'appelle Forbidden Beach, qui est une collection de poétique de ce genre de texte. Et une autre collection qui s'appelle Saggio Casino, qui est une collection de philosophie de la littérature, qui essaie de réfléchir sur des problèmes d'ontologie, de ces formes littéraires, et comment ces formes littéraires sont pensables, se connectent aux autres arts et aux autres formes de la littérature, plus repérables, disons, plus inscrites dans l'histoire. Et enfin, il y a une troisième collection qui démarre, qui s'appelle Réalité non couverte, qui est dirigée par Anne-Laure Blusseau, et qui est une collection vraiment de littérature non fictionnelle. Voilà.
Donc voici le dispositif théorique pour ces nouvelles éditions Al Dante.
Voilà, c'est ça.